Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec notre membre de la Dream Team, Maryse Evangé. Salut Maryse.
Salut, salut.
Tout va bien Maryse?
Oui.
Au programme ce soir, le peloton en route vers le Tour de France. Paris-Nice s'était lancé aujourd'hui, la première grande course à étapes de la saison. Un Français maillot jaune, Christophe Laporte, on va l'entendre. Nous serons aussi avec notre envoyé spécial Arnaud Souk et Vincent Lavenue, manager historique de l'équipe AG2R Citroën. On parlera des forces en présence et du parcours relevé de cette 80e édition. 19h30, MotoGP. Notre champion du monde dans le dur, Fabio Quartararo, n'a terminé que 9e du premier Grand Prix de la saison au Qatar. Que s'est-il passé? Faut-il s'inquiéter pour la suite de la saison? On pose la question à notre spécialiste. On a l'impression qu'on lui a enlevé son moteur. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, quel week-end? Quel week-end pour le ski féminin français? 2 victoires en 2 jours. 13 ans qu'on n'avait pas vu ça. Tessa Worley a gagné aujourd'hui. Elle sera notre invitée à 19h45. On est ensemble jusqu'à 20h. On vous lit sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, le Direct Studio.
RMC Sport Show.
19h01 du direct ce soir dans le RMC Sport Show du handball. Morgan Maury, c'est terminé pour l'équipe de France.
L'équipe de France féminine de handball qui visait une qualification pour l'Euro en novembre en Slovénie, en Macédoine et au Monténégro. Eh bien, mission accomplie pour les filles coachées par Olivier Crumbles, les championnes olympiques. Victoire 27-19 face à la Croatie. Un coup de collier en fin de première période. Et derrière, elles ont mis en difficulté ces Croates. Victoire de la France, 27-19, les Françaises qualifiées pour l'Euro en fin d'année.
Merci Morgan, passe une bonne soirée. Du basket également ce soir avec de la Betclic Elite, c'est la 21e journée et c'est le choc entre Boulogne et l'Asvel que nous commente Nicolas Bayou. Salut Nicolas.
Bonsoir à tous. Effectivement, choc énorme entre Boulogne-Levallois et l'Asvel hein, pour la première place. Les deux équipes sont à égalité. La première place en basket, c'est très important dans l'optique des playoffs parce que ça vous donne l'avantage jusqu'en finale, l'avantage du terrain pour recevoir pendant tous les playoffs. C'est un énorme choc avec une équipe de l'Asvel qui reste sur 8 victoires consécutives dans ce championnat de France. La dynamique inverse pour Boulogne-Levallois, 3 défaites consécutives et puis sur le banc et sur le terrain du beau monde. Sur le banc, il y a notamment Vincent Collet, le coach de Boulogne, le coach de l'équipe de France, face à lui, TJ Parker. Pour le moment, c'est bien parti pour l'Asvel qui mène 2-0, égalisation des Metropolitans à l'instant, de partout dans ce premier quart-temps.
Merci Nico, à tout à l'heure. Et puis tiens, un mot de foot, c'est le choc en Angleterre, le dernier Derby mancunien Manchester City contre United. Il reste un gros quart d'heure à jouer et City a fait la différence. 3-1 désormais pour Manchester City, doublé de De Bruyne et troisième but de Mahrez. Jadon Sancho avait égalisé. À 4 mois du départ du Tour de France, la saison des courses à étapes est lancée. Paris-Nice a commencé aujourd'hui sur une victoire française.
La folie Jumbo-Visma qui est en train de faire des dégâts monstrueux dans le peloton depuis désormais quelques kilomètres. Et actuellement, ce sont 3 coureurs de l'équipe néerlandaise qui sont en tête. Le Français Christophe Laporte dans sa roue, Wout Van Aert et Primoz Roglic, l'un des favoris pour le classement général. Et voilà, il va lui donner la victoire à Primoz Roglic. C'est logique, c'est tout à fait logique. Ou alors c'est à Christophe Laporte qui donne la victoire, mais c'est énorme! La première victoire en World Tour du Français Christophe Laporte. Alors ça, c'est magnifique ce cadeau que lui ont fait ces deux cadors de compagnons d'échapper, le Français Christophe Laporte qui signe sa première victoire en World Tour sur Paris-Nice.
La une du RMC Sport Show.
Eh oui, même Arnaud Souk ne s'y attendait pas. Christophe Laporte a remporté la première étape de Paris-Nice, maillot jaune demain. C'était en direct sur RMC avec donc notre envoyé spécial qui est là ce soir. Salut Arnaud.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Oui, je m'y attendais pas. En même temps, je suis pas tacticien, je suis pas directeur sportif, je suis pas manager général. Donc voilà, moi j'aurais pensé qu'on aurait donné les bonifications à Primoz Roglic. Mais la loi du sport est quand même un peu plus romantique et c'est sympa.
T'as ce même problème qu'on a nous tous en commun les journalistes sportifs, c'est que voilà, si à un moment donné on n'est pas sur le terrain, on n'est pas sportif, c'est que il y a eu un problème, on était voilà, il a manqué un truc.
Je sens que tu complexes avec ça fait 2 fois que t'en parles aujourd'hui.
Non, c'est de la lucidité, voilà, le temps passe, on devient lucide. Bon Arnaud, cette semaine de course va nous donner les premières tendances de la saison des courses à étapes, bien sûr, dont le sommet sera le Tour de France cet été en juillet. Et la tendance, Arnaud, on l'a entendu avec ton commentaire cet après-midi, c'est que l'équipe Jumbo-Visma, l'équipe de Roglic, est très très forte.
Bah, sur le papier, on le savait. Hein, voilà, Primoz Roglic, leader de cette équipe, le Slovène, vainqueur à plusieurs reprises de la Vuelta, qui l'an passé s'était fait, malheureusement pour lui, sauter sur la ligne par Maximilian Schachmann, en tout cas lors de la dernière étape, puisqu'il avait eu, il avait connu à plusieurs reprises des chutes. Donc on le savait, il y avait lui, il y a Wout van Aert dans cette équipe, il y a Christophe Laporte, dont on connaissait évidemment tout le talent, même si c'est vrai, c'était sa première victoire aujourd'hui en World Tour. On a quand même Steven Krushvijk, on a Rohan Dennis, on a Mike Tennyson, on a Nathan Van Hooydonk. Enfin, les connaisseurs de vélo savent que les noms que je viens de citer, en fait, il n'y en a pas un à jeter. Enfin, oui. Évidemment, il n'y a aucun coureur à jeter sur Paris-Nice, mais c'est vraiment une équipe exceptionnelle et qui me semble quand même être au-dessus du lot. Donc voilà, il va falloir clairement s'allier, je pense, contre Jumbo-Visma pour espérer les faire vaciller cette semaine.
Alors, on sera avec Vincent Lavenue dans une seconde, mais raconte-nous là ce final exceptionnel. C'était un truc de fou. Ils sont partis en mode contre-la-montre par équipe à 6 km de la fin, quoi, les trois là.
Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, c'est dans la dernière difficulté, voilà, que Christophe Laporte a durci un petit peu le ton, hein. Peut-être à ce moment-là ne s'attendait-il tout simplement pas à pouvoir être en mesure de rester dans la roue de Wout van Aert et de Primoz Roglic. En tout cas, c'était clair, on voulait faire des dégâts du côté de Jumbo-Visma depuis un petit moment. Jumbo-Visma avait vraiment pris les devants dans cette première journée de course. On avait vu Rohan Dennis un petit peu auparavant semer la zizanie, Mike Tennyson également semer la zizanie, et donc là, bah oui, ils sont partis à trois. Ils se sont rendu compte que quasiment personne, à part un coureur de Koenig Quickstep, n'était en mesure de les suivre. Finalement, personne n'a été en mesure de les suivre. Et à un kilomètre de l'arrivée, Wout van Aert est venu se porter à l'oreille de Christophe Laporte. Il y a murmuré des mots doux. Il y a dit, bah écoute, c'est pour toi. Ça sera pour toi la victoire aujourd'hui. C'était, voilà, ça, dans le feu de l'action, on l'a pas vu, nous, mais ça devait être un moment assez exceptionnel pour Christophe Laporte.
Mais c'est d'ailleurs, je crois, j'ai entendu qu'à l'arrivée, il s'exprimait là-dessus. C'était son cadeau anniversaire, quelque part, même si c'était pas son anniversaire.
C'est un petit peu ça. C'était un petit peu le cadeau de bienvenue, parce que faut rappeler aussi que Christophe Laporte a passé 8 saisons chez Cofidis et il court sous les couleurs néerlandaises de Jumbo-Visma, qui est encore une fois l'une des toutes meilleures équipes du monde depuis quelques semaines seulement, et c'est sa première victoire en World Tour, ce qui est la première division du cyclisme mondial. Alors on le découvre pas, Christophe Laporte, hein, l'an passé justement, c'est drôle comme l'histoire finalement est un éternel recommencement où des fois il y a des petits aléas. L'an passé, Primoz Roglic l'avait sauté sur la ligne justement lors de la 6e étape de mémoire de Paris-Nice qui arrivait à Bio. Primoz Roglic, justement, le Slovène, l'avait sauté sur la ligne. Il avait terminé deuxième ce jour-là. Deux jours plus tard, le jour où Primoz Roglic perd Paris-Nice, eh bien Christophe Laporte fait encore deuxième derrière Magnus Cort Nielsen. Bref, on découvre pas ce coureur. C'est un coureur exceptionnel, on le savait. Mais là, il a passé un cap en allant chez ses Néerlandais.
Et il est 19h07. C'est le RMC Sport Show et nous sommes en direct avec Vincent Lavenue, le manager de l'équipe AG2R Citroën. Bonsoir Vincent, merci d'être en direct sur RMC.
Oui, bonsoir à tous.
Ouais. Bah, déjà, on va parler de la performance de votre équipe, mais votre œil de patron d'équipe, quand vous voyez la démonstration de la Jumbo-Visma aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, bon, c'est très bien que la Jumbo-Visma est une très grosse armada avec des coureurs top niveau mondial, donc ils sont capables de faire ce type d'exploit sur une étape, voilà, c'est tout à fait réalisable. Hein. Ils ont quand même des champions hors normes, hors catégorie, hein, les Roglic, les Van Aert, ce sont des top niveaux mondiaux. Ils sont capables d'être brillés au plus haut niveau dans les championnats du monde, dans le Tour de France. Donc voilà, Christophe Laporte, c'est pareil, il n'arrive pas de nulle part. C'est un garçon qui a gagné beaucoup de courses. Certes, c'est sa première victoire en World Tour, mais c'est un garçon qui est quand même d'un très très haut niveau. Et voilà, pris dans l'ambiance, pris dans la bonne dynamique, cette équipe aujourd'hui a dominé de la tête et des pédales, on peut dire, cette étape, voilà, parce qu'ils ont bien manœuvré, ils sont très forts. Et voilà, donc il faut s'incliner par rapport à cela. Hein.
On va juste écouter la première réaction de Christophe Laporte. Arnaud, tu l'as tendu ton micro après l'arrivée sur justement le bonheur de cette première victoire en World Tour en carrière.
Bah, je m'en rends encore pas trop compte. Je vais profiter dans un premier temps, c'est pas tous les jours. Je vais profiter avec l'équipe parce qu'on a fait un travail incroyable aujourd'hui. Et voilà, je suis vraiment très heureux. Je pense voilà, à ma famille qui doit regarder ça, ils doivent être heureux aussi. Donc ça me donne beaucoup de bonheur.
Et tiens, Vincent Lavenue, Christophe Laporte qui était chez Cofidis pendant 8 ans, qui vient de changer d'équipe. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes posé la question d'éventuellement le faire venir chez AG2R Citroën ?
Ouais. Bien sûr, on était même en contact très avancé avec lui. Mais je pense que c'est un garçon qui avait le choix. Il avait plusieurs équipes qui souhaitaient l'engager, parce que tout le monde sait à l'évidence, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, hein, qui monte en puissance encore, qui a encore une marge de progression. Donc on a été en discussion très avancée avec lui. Il a fait son choix d'aller dans l'une des meilleures équipes du monde, ça se comprend. Mais voilà, c'était, on s'est déplacé même pour le rencontrer, parce qu'on a rencontré son agent et on a fait le job pour essayer de l'embaucher, mais ça n'a pas suffi.
Vous n'avez pas mis assez d'argent, quoi?
Non, je ne pense pas que ce soit une question que d'argent. C'est aussi, vous savez, quand tes coureurs ont le choix entre plusieurs équipes, ils ont tendance aussi à aller dans les équipes les plus prestigieuses. Je pense que c'est un petit peu le cas dans le foot, hein. Quand vous avez un jeune coureur qui est sollicité, bah, il va peut-être être plus attiré par Madrid, Barcelone ou Chelsea que par malheureusement une équipe française. Voilà. Donc après nous, écoutez, on fait un gros travail pour mettre notre équipe au plus haut niveau. Je pense que petit à petit, on passe les paliers, mais ça n'a pas suffi pour convaincre Christophe. Et je regrette parce que c'est un garçon effectivement qui est très intéressant, qui a des belles valeurs et qui a un fort potentiel, donc qui s'exprime au mieux cette année avec une des plus grandes équipes du monde, donc voilà, bon, c'est une chose tout à fait naturelle.
Alors, il a dit quelque chose de très important, Vincent, moi quand je l'ai interrogé tout à l'heure, c'est Arnaud Souk, il a dit quelque chose de très important, Christophe, il a dit ce qui a changé pour moi dans cette équipe, c'est que tout est au millimètre. Est-ce que c'est une particularité finalement de ces équipes étrangères, ou est-ce que vous estimez vous aussi que finalement chez AG2R aussi on fait tout au millimètre, ou il faut progresser encore en la matière?
Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire tout est au millimètre?
Non, mais je crois que c'est vrai que souvent on entend dire que les équipes françaises sont pas forcément pointues, sont pas aussi rigoureuses que les plus grandes armadas étrangères. Je ne crois pas. Je crois qu'on a nous-mêmes mis en place des choses depuis un certain nombre d'années, avec des directeurs de performance, avec des stages en altitude. On maîtrise ça depuis très longtemps. Voilà, on essaye aussi d'être vraiment vraiment parfait. Maintenant, on n'a pas la puissance aujourd'hui des Ineos, des Jumbo ou des UAE. Voilà, ça c'est une réalité. Pour faire une confidence, l'an dernier, j'étais en contact aussi avec Joao Almeida, qui a choisi finalement d'aller chez UAE. Voilà, on a cherché nous-mêmes de s'aguerrir avec des coureurs de top niveau mondial, mais voilà, ça n'a pas suffi. Et après, quand un coureur a le choix, encore une fois, entre 8 ou 10 équipes, bah, évidemment, il est attiré par les grosses armadas. Mais sachez qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, on travaille énormément. Et je pense que nos résultats l'an dernier ont montré qu'on était quand même dans une phase ascendante. On a gagné une étape sur les trois grands tours l'année dernière. Il y a 4 équipes dans le monde qui l'ont fait seulement. On fait 4e du tour, voilà. Donc je pense qu'on travaille pour atteindre des sommets. Est-ce qu'on y arrivera? J'espère qu'on va progresser encore cette année, mais on a encore une petite marge pour atteindre, on va dire, le plus haut niveau.
Marie-Zé Vangetier.
On parle justement des conditions et de ce qui peut attirer un jeune, au-delà évidemment de l'aspect financier et du nom aussi qui peut attirer. Est-ce que pour une formation comme la vôtre, finalement, ça n'est pas, quand on va chercher un cycliste, l'assurance que, quelque part, l'équipe va miser sur vous et va rouler pour vous? Est-ce que ce n'est pas finalement ça le plus important?
Je pense que en ce qui concerne Christophe, s'il venait chez nous, ça allait être le leader incontesté, notamment sur tous les sprints. Et il aurait pris une place de co-leader au niveau des classiques, notamment avec Greg Van Avermaet et Oliver Nassen. Mmh. Donc il avait une belle place à se faire. Mais là, c'est vrai qu'il arrive quand même avec une équipe top niveau mondial. Il sait que sur les classiques, il a l'assurance de pouvoir partager aussi le rôle de co-leader avec Wout Van Aert. C'est toujours bien d'avoir plusieurs pièces plusieurs atouts dans son jeu pour jouer au plus haut niveau. Hein. On a vu pendant des années Quick-Step pouvoir projeter un, deux ou trois coureurs à l'avant dans les classiques. C'est beaucoup plus facile pour manœuvrer. Nous, dans ce sens-là, je pense que Christophe nous aurait fait aussi le plus grand bien. Mmh. Voilà, mais après, son choix est tout à fait respectable et aujourd'hui, il a raison puisqu'il va être maillot jaune de la première équipe de Paris-Nice avec un numéro incroyable qui a été fait par cette équipe. Donc, son choix a été le bon.
Vincent Lavenu, le manager de l'équipe AG2R Citroën, est en direct dans le RMC Sport Show sur Paris-Nice, cette première grande course à étapes de la saison. Vincent, on s'intéresse à votre équipe. Voilà, Christophe Laporte n'est pas là, mais il y a quand même du beau monde. Par exemple, Damien Touzé 12e, Aurélien Paré-Peintre, Ben O'Connor, Clément Champoussin, ils sont tous dans le premier peloton aujourd'hui. C'est quoi l'ambition sur ce Paris-Nice de votre équipe?
Bah pour nous, c'est le top 5. Hein, quand on voit le on va dire la liste de départ, on cherche pas à mettre une pression de fou au niveau des coureurs parce que c'est la meilleure façon de les déstabiliser. Par contre, je pense qu'on a un potentiel pour rentrer dans le top 5 du classement général, hein, avec Ben O'Connor bien sûr, avec Aurélien Paré-Peintre, avec un jeune Chantoussin qui est un garçon qui monte en puissance. Donc aujourd'hui, vous l'avez signalé, on a quand même 5 coureurs dans le premier groupe, plus 2 coureurs qui sont juste derrière à 20 et quelques secondes. Donc on a nos 7 coureurs qui sont présents. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait qu'il y a 3 étapes piégeuses à Paris-Nice. Il y a deux courses différentes sur Paris-Nice. Il y a les 3 premiers jours avec les coups de bordure, le vent et voilà. On sait que demain, ça sera une étape très dangereuse. Tout le monde le sait. Et quand on arrivera dans le Palestel, ce sera une autre nouvelle course qui va commencer avec un contre-la-montre dans un premier temps et ensuite 4 étapes où on pourra se livrer dans la montagne. Nous, on est plutôt une équipe, on va dire, où on s'exprime sur les parcours difficiles. Donc je pense qu'on verra si on arrive à dans le Palestel sans trop trempeau d'encombre, une deuxième course commencera qui sera intéressante pour nous.
Bon, magnifique, j'avais prévu de demander le parcours à Arnaud Souk, finalement c'est Vincent Lavenue qui nous le fait, c'est magnifique. Est-ce que Vincent, ce sera ma dernière question, plus que jamais là, cette 80e édition de Paris-Nice c'est considéré comme un mini Tour de France au regard du parcours, au regard du plateau également?
C'est une épreuve extrêmement difficile, c'est l'épreuve du début de saison qui est vraiment la plus difficile à encaisser pour les coureurs parce que tout le monde arrive déjà à 100%, le plateau est toujours exceptionnel. Je sais que les jeunes coureurs qui découvrent Paris-Nice souvent ont beaucoup de difficultés physiquement à encaisser les efforts. Donc voilà, on amène chacun, nous on a amené notre meilleure équipe sur Paris-Nice, vraiment l'équipe de leaders. Donc pour briller, pour envisager de faire des résultats, on ne peut pas se permettre d'arriver à 90%, il faut être à 100%.
Merci Vincent Lavenue d'avoir été en direct sur RMC ce soir. On vous souhaite un excellent Paris-Nice et à très bientôt sur RMC.
Merci, à bientôt,
au revoir. Bonne soirée, au revoir, il est 19h16. Salut RMC Sport Show avec Marie-Zévon GP, avec Arnaud Souk, notre envoyé spécial sur Paris-Nice. Arnaud, bon, il a pas mal fait le parcours. Vincent, il a pas fait en revanche le plateau, parce que c'est vrai que quand on regarde les noms présents cette année, il manque pas grand monde qu'on verra au mois de juillet sur les routes du Tour. Il y en a quelques-uns, mais il y a quand même du beau monde déjà.
Il en manque forcément, mais on a quand même effectivement pas mal de leaders qui sont présents, parce que vous savez que Paris-Nice maintenant se dispute en gros le leadership, on va dire, de ce beau mandat de la saison avec une course qui se déroule en Italie qui s'appelle Tirreno-Adriatico, qui va de la mer Tyrrhénéenne, donc des côtés qu'on connaît nous de l'Italie, vers la mer Adriatique, donc de l'autre côté. Bref, tout ça pour dire que les leaders se partagent un petit peu entre ces deux courses, mais qu'on a quand même du beau monde. On a parlé de Primoz Roglic, évidemment. On peut parler de Nairo Quintana, le Colombien, puisqu'on était avec Vincent Lavenue il y a quelques instants. Ben O'Connor est quand même l'Australien 4e du dernier Tour de France, qui avait fait un numéro fabuleux dans l'étape apocalyptique de Tignes, où il s'était imposé sous la pluie au bout de l'effort dans une des conditions quasi hivernales. On n'a pas Tadej Pogacar du côté de chez UAE, mais on a son petit copain Brandon McNulty, l'Américain, qui est quand même loin d'être inintéressant. Et puis côté français, on a quand même David Gaudu, Guillaume Martin, j'oublie également les frères Yates de chez Ineos et de chez Bike Exchange. Bref, on a quand même un sacré plateau, et on a aussi le double vainqueur, accessoirement le double tenant du titre, Maximilian Charman, l'Allemand, qui aura à cœur aussi de se montrer. Donc oui, il va y avoir une belle lutte pour le classement général, et puis il va y avoir aussi une très très belle lutte pour les étapes, même si Jumbo Visma nous a quasiment convaincu du contraire aujourd'hui. Mais je vous dis que ça va bien bastonner.
Alors en même temps, les Jumbo Visma de Roglic, l'un des deux trois prétendants principaux à la victoire sur le Tour de France cet été, ils avaient besoin de réagir, parce qu'il y en a un qui est ni sur Paris-Nice, qui est ni sur Tirreno-Adriatico, mais qui était bien là hier sur l'Estrade Bianche. C'est Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France, deux derniers Tours de France d'ailleurs. Il a frappé très fort, il a été impressionnant vainqueur hier, large vainqueur d'Estrade Bianche. En étant sur aucune de ces deux courses à étapes, il a quand même peut-être fait mal à la tête à tout le monde déjà, Arnaud Pogacar.
Pogacar, de toute manière, est un coureur fourré classé, comme on dit. Alors il est sur l'Estrade, il est sur Tirreno-Adriatico.
Ah, il s'est mis sur Tirreno. Non, pas là. C'est un petit peu.
Si. Ah, enfin, sauf à ce que je vous raconte une énorme, non, une énorme bêtise. Il est non seulement sur Tirreno-Adriatico, mais le principal favori. En général, si vous voulez, les coureurs qui s'alignent sur l'Estrade Bianche, qui est la classique de ces chemins blancs de Toscane, voilà, vont tant qu'à faire justement faire Tirreno-Adriatico après. C'est juste à côté, donc il n'y a pas trop de soucis. Bref, tout ça pour dire que oui, Tadej Pogacar, de toute manière, il a encore montré hier, mais si vous voulez, il a un palmarès, il a 23 ans, il a un palmarès digne d'Eddy Merckx, donc ou qui potentiellement peut être digne de celui d'Eddy Merckx dans une dizaine d'années s'il continue comme ça.
il gagne, à la Eddy Merckx aussi, quoi. Hier, il attaque à 50 km de l'arrivée.
Il gagne le Tour de Lombardie. Hier, il gagne l'Estrade Bianche, qui est considéré comme, voilà, alors, c'est un peu du jargon cycliste, mais comme le sixième monument. Vous savez que dans le cyclisme, on a cinq monuments, cinq classiques qu'il faut gagner par-dessus tout. Et puis, juste en dessous, on considère qu'il y a l'Estrade Bianche, donc, qui n'est pas considéré comme un monument, mais qu'on surnomme le sixième monument. Qu'est-ce que vous voulez dire avec, avec ce garçon-là? De toute manière, il faut revoir toutes nos manières de penser le vélo, parce que, qu'il est tout simplement exceptionnel. Et voilà, il va falloir compter sur lui encore cette année. Mais Primoz Roglic a montré qu'il faudrait bien compter sur lui aussi. Il n'y a pas trop de soucis. Être aussi en forme aujourd'hui, c'est quand même une belle performance.
Et puis, il a l'avantage de l'équipe derrière lui, Roglic. En tous les cas, Pogacar n'est pas là. Et demain, c'est un Français qui aura le maillot jaune sur les épaules pour cette deuxième étape. C'est quoi le programme demain, Arnaud?
Alors, le programme, c'est une étape entre Offargis et Orléans. Donc, voilà, nous serons
on commence les
Yvelines et le Loiret. On descend, mais c'est pas facile, parce que Vincent Lavenu nous en parlait tout à l'heure. Il s'attend à une étape très difficile. Traditionnellement, cette deuxième étape qui permet de mettre le cap au sud n'est pas un cadeau pour les coureurs, puisqu'il y a systématiquement du vent qui occasionne quasi systématiquement également des coups de bordure. Donc c'est un parcours qui est ouvert aux quatre vents, donc ça va être le bazar probablement sur la route et jusqu'à l'arrivée à Orléans. Donc on risque d'avoir encore un joli scénario demain. Et puisque tu parlais de Christophe Laporte maillot jaune, sache quand même que c'est le premier maillot jaune français depuis Arnaud Démare en 2018 sur Paris-Nice, donc ça n'est pas rien et on boudera pas notre plaisir.
Oui, carrément, et c'est double bonheur, parce que je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on sépare Nice qui démarre, la course au soleil, il y a une petite odeur de printemps, quoi. Ça fait du bien. On arrive sur le bon là, départ de Paris-Nice.
Je peux te dire qu'à chaque fois, moi, je pars de Paris. Il fait un temps apocalyptique, ce qui est pas le cas cette année, il fait très mauvais. Et le jeudi soir, il y a le petit truc où t'arrives sur la Côte d'Azur en général, jeudi soir ou le vendredi matin. Et alors là, tu te frises les moustaches et tu mets le short.
Change pas de métier, comme on dit. Merci Arnaud. Passe une bonne soirée, une bonne semaine. J'en ai aucun doute. Et puis à très vite pour suivre.
Salut les amis.
Au plus près, ce Paris-Nice. Salut Arnaud. 19h21, le RMC Sport Show en direct avec Marie-Zéven GP jusqu'à 20h. Et nos directs, justement, avec le basket et cette affiche de Betclic Elite, c'est la 21e journée. Les deux leaders face à face, Boulogne-le-Valois, Asvel, Nicolas Bayot.
Oui, le combat des chefs, effectivement, entre les Metropolitans et l'Asvel. Les deux équipes à la première place. La première place qui est importante pour avoir l'avantage du terrain jusqu'à la finale, jusqu'en play-off. On est déjà dans une odeur de play-off, de printemps, comme tu le disais. Avec cette équipe de Boulogne qui mène de 4 points, 24-20, avec notamment un show incroyable de Will Cummings, l'américain de Boulogne-le-Valois. 14 points marqués sur les 24 de l'équipe parisienne entraînée par Vincent Collet. Plus de 50% des points. Une équipe de Villeurbanne qui est revenue, qui a compté 7 points de retard à un moment, qui est revenue à 4 points de cette équipe de Boulogne-le-Valois dans la fin du premier quart-temps, notamment grâce à David Lighty qui est de retour. En tout cas, pour le moment, un très beau premier quart-temps dans une ambiance de feu. 3000 personnes au des sports, Marcel Cerdan ici à Levallois. 24-20 pour Boulogne-Levallois face à l'Asvel.
Alors, palais des sports, Nico, de Levallois, mais dis-moi, tu commenteras où l'année prochaine là? Quoi cette histoire?
Ouais, c'est un divorce entre les deux villes, une guerre d'ego entre Boulogne et Levallois. Depuis quelques années, c'est Boulogne qui a pris un petit peu le dessus dans la gouvernance, notamment avec le maire de Boulogne qui est très très impliqué dans le club. Et puis, il y avait une convention qui était signée jusqu'en 2023 pour jouer dans cette salle, qui est une belle salle de championnat de France de basket depuis longtemps, qui a une longue histoire. Et puis l'ego a pris le dessus et Boulogne veut partir avant 2023. Le problème, c'est que la salle à Boulogne-Billancourt n'est pas encore prête, pas avant 2025, voire même peut-être plus tard. Donc ils vont jouer dans un palais des sports, peut-être à Issy-les-Moulineaux, dans une plus petite salle. Le problème, c'est qu'en Coupe d'Europe, il y a un cahier des charges, même en championnat de France il y a un cahier des charges, et que voilà, ça pose question. Ce divorce,
et même pour le nom, donc ça va devenir Boulogne-le-Valois,
Boulogne-Issy-les-Moulineaux,
ça va être l'équipe des Yvelines.
Des Hauts-de-Seine. Ça pose question.
C'est clair. Bon, merci du coup. On te retrouve tout à l'heure pour la suite de cette affiche entre Boulogne-Levallois et l'Asvel, de ce match qui a lieu à Levallois. 19h24, le RMC Sport Show continue dans un instant. MotoGP, que se passe-t-il avec la moto de Fabio Quartararo? La confirmation sera-t-elle plus dure que la conquête du titre? On pose la question à notre spécialiste. À tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Il est 19h26, merci de passer votre dimanche soir en notre compagnie. On sait que parfois ça peut être un peu dur le dimanche. Certains sont peut-être sur le retour des vacances. Courage à vous, on est ensemble. On est ensemble jusqu'à 20h en tout cas avec Maryse dans quelques instants. La minute foot avec le choc de la soirée à vivre sur RMC à 20h45. Marseille-Monaco, on parle moto avec le retour compliqué de Fabio Quartararo. Mais d'abord le direct avec le basket, un point rapide sur Boulogne-Asvel. C'est la Betclic Elite et c'est Nicolas Bayou à Levallois.
Ouais, Thibaut et l'équipe de Metropolitans, les Boulonnais qui sont maintenant en train de prendre le large. 35-20, c'est un 9-0 depuis le début de ce deuxième carton. Il reste 8 minutes de jeu avant la mi-temps. 35-20 plus 15, c'est évidemment le plus gros écart. Une équipe de l'Asvel qui est bousculée dans ce début de deuxième carton. 35-20.
À tout à l'heure, Nicolas, un mot de foot également. En Angleterre, c'est terminé le derby de Manchester. City a collé 4-1 à United. Manchester City plus que jamais leader de Premier League, évidemment. Doublé de De Bruyne, doublé de Mahrez contre un but de Sancho qui avait égalisé un temps. Voilà, United a été au contact pendant environ 100 minutes. À 19h45, l'invité du RMC Sport Show, Tessa Worley, pour venir commenter le magnifique week-end du ski féminin français. Dieu sait qu'on n'en a pas parlé souvent. Ça a été compliqué ces dernières années. Ça a été beau. On sera avec Tessa Worley. Mais tout de suite, à 1h15 du dernier match de la 27e journée de Ligue 1, place au foot pour une minute.
RMC Sport Show,
la minute foot.
Et on trouve Jeannot Rességué, qui est déjà au Vélodrome, évidemment. Salut Jeannot.
Bonsoir Thibaut.
Magnifique affiche, Marseille, Monaco, avec deux équipes ambitieuses et deux équipes qui ont grand besoin de points, Jeannot.
Oui, Marseille dans son chassé-croisé avec Nice. Le coup de pression des Aiglons, vainqueurs hier du PSG 1-0. Ils ont repris la deuxième place avec deux points d'avance sur l'OM. On rajoute à ça la victoire de Rennes cet après-midi qui revient à un point de l'Olympique de Marseille. Donc victoire obligatoire pour repasser devant les Niçois et surtout repartir de l'avant après la défaite ici face à Clermont 2-0 et puis le nul à 3, un but partout. D'autant que Marseille n'a pas un très bon bilan au stade Vélodrome. 19 points laissés sur le carreau. Monaco a pris un coup derrière la tête en Coupe de France à Nantes, demi-finale mercredi, éliminé, un bilan mitigé pour le nouveau coach Philippe Clément, 10e au classement, 38 points, une belle occasion de se relancer, pourquoi pas, en faisant un coup ce soir ici au Vélodrome, où Monaco reste sur 3 matchs sans victoire, une défaite et 2 nuls, l'année du titre 2017, c'est cette époque-là où remonte la dernière victoire des Monégasques, 4-1, c'était le 15 janvier 2017, des absences pour Monaco, avec notamment au niveau défensif l'absence de Maripan, et offensivement pour l'Olympique de Marseille, une dehors. Bref, on attend une belle soirée. En plus, il y aura du monde, 57 000 spectateurs.
Merci Jeannot, on te retrouve à partir de 20h dans l'after, ou peut-être un peu avant d'ailleurs si t'as les compos officiels, puisque le coup d'envoi de ce match est à 20h45. Salut Jeannot, 19h30 pile, vous êtes sur RMC avec Maryse et avec Fabio Quartararo. Il nous a régalé l'année dernière, notre magnifique champion du monde de MotoGP, le premier français de l'histoire, Fabio Quartararo, a repris le guidon aujourd'hui, mais ce premier Grand Prix de la saison au Qatar ne s'est pas très bien passé pour El Diablo.
Le coup d'envoi de cette saison, c'est parti avec un excellent départ pour Bastianini, pour Marc Marquez, avec Jorge Martin qui a failli percuter Bastianini. Ce sont finalement les deux pilotes Honda qui virent en tête au premier virage. Troisième position pour Paul Espargaro. Le frère de Paul Espargaro est en quatrième position à l'est sur sa MotoGP. La cinquième place pour Marc Marquez. Joan Mir est sixième, Alex Rins septième et huitième seulement. Fabio Quartararo et la victoire d'Enea Bastianini. On va suivre le dernier virage et la ligne droite avec les deux pilotes français qui sont au coude à coude, et El Diablo qui va quasiment perdre sa huitième place à l'arrivée. Joan Zarco qui devance Fabio Quartararo. La dernière ligne droite aura été fatale à Fabio Quartararo.
La deuxième période du RMC Sport Show.
La confirmation sera-t-elle plus dure que la conquête du titre? Le hashtag RMC Live, le direct studio, on vous lit avec Maryse et avec Paul Lafitte, notre commentateur moto qui nous rejoint dans le RMC Sport Show. Salut Paul.
Salut Thibaut, salut Maryse, bonsoir à toutes et à tous.
Bon Paul, on avait hâte de retrouver Quartararo, on est un peu déçu, alors certainement pas autant que lui. Il termine finalement bel et bien 9e de ce Grand Prix du Qatar remporté par l'Italien Bastianini. Qu'est-ce qui s'est passé là? Raconte-nous, Quartararo 9e.
Ça a été un petit peu compliqué. Oui, non, c'est sûr. En tout cas, depuis maintenant 2 saisons, lorsque le pilote Yamaha dominait de la tête et des épaules, évidemment, les Grands Prix moto, ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, dès le début de la séance de qualification, puisque le Niçois a terminé 11e de ses qualifs, il s'est pourtant bien élancé, puisqu'à la fin du premier tour, Quartararo était déjà en 7e position. Mais ça a été tout simplement, Maryse, Thibault, une lente agonie pour le pilote officiel Yamaha, qui ne pouvait pas faire mieux que 8e ou 9e, il l'avait d'ailleurs dit en conférence de presse, je vise un top 10, ce sera véritablement le maximum que je pourrais faire sur cette Yamaha-là. Ça a été donc très très compliqué et de surcroît, Fabio Quartararo a quand même bénéficié de l'abandon de plusieurs pilotes, notamment les deux pilotes du team Ducati officiel, la chute de Pecco Bagnaia, le vice-champion du monde, l'abandon sur problème mécanique de Jack Miller ou encore l'abandon sur chute provoqué d'ailleurs par Pecco Bagnaia de Jorge Martin, l'auteur de la pole position. Autant dire que ce week-end, El Diablo a tout simplement limité la casse.
Alors, disons-le clairement, Paul, il y a un problème de moto. Lui, il fait ce qu'il peut, mais sa Yamaha n'avance pas. C'est incroyable.
Oui, de gros problèmes. D'ailleurs, il l'avait évoqué durant l'intersaison. Déficit de puissance de la Yamaha, déficit de grip, déficit de stabilité dans les courbes, notamment en rapide, ce qui fait que le package de cette Yamaha aujourd'hui, ne permet pas aux champions du monde en titre de se battre mais... armes égales avec évidemment le plateau. On pense au Ducati, on pense également au Honda de Marc Marquez ou encore de Paul Espargaro, 3e le pilote espagnol cet après-midi de cette première course. Donc effectivement, mais... les ingénieurs de chez Yamaha vont devoir travailler d'arrache-pied pour essayer de combler ce retard qui semble aujourd'hui déjà grand ouais, par rapport aux écuries de pointe que sont Ducati et
Maryse.
Mais je comprends pas qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ont modifié quelque chose ou l'année dernière il a déjà gagné sur une chèvre.
Non, tu as raison. Non, c'est certainement l'un des deux meilleurs pilotes au monde, avec Marc Marquez du plateau MotoGP. Donc, les qualités de Fabio Quartararo ne sont pas remises en cause. Effectivement, sa Yamaha l'année dernière était déjà un petit peu en souffrance au niveau de la puissance par rapport au Ducati. Preuve à l'appui, Pecco Bagnaia avait remporté 4 des 6 dernières manches de la saison, venant talonner Fabio Quartararo pour le titre de champion du monde. Mais sur des circuits, où il y avait moins de lignes droites, Fabio Quartararo était capable de s'imposer. Il l'avait d'ailleurs prouvé l'année dernière à Losail, en se classant 5e de la première course et en gagnant la deuxième course. Mais c'est vrai que les usines Ducati et Honda ont fait d'énormes progrès, notamment en puissance, et aujourd'hui ils se retrouvent largués. Pour que les auditeurs comprennent bien, sur la ligne droite aujourd'hui à Losail, lorsque les meilleurs Ducati frôlaient les 350 km/h, Fabio Quartararo lui touchait péniblement les 336 ou 337 km/h, un débours de 15 km/h à 20 km/h en ligne droite. C'est énorme, et face à une concurrence comme Ducati, ça risque de poser beaucoup, beaucoup de problèmes aux ingénieurs de chez Yamaha.
Maryse, quand même, quand t'es l'écurie, t'as ton champion, t'as le champion du monde dans ton équipe, c'est une faute professionnelle d'être autant largué par les autres.
Tu
lui donnerais ton scooter, il irait plus vite.
Mon scooter, c'est cette marque-là, donc si tu veux. Voilà, moi, ça me va. Pour faire de l'interfield, si tu veux, ça suffit, j'ai pas besoin de monter à 337 km/h. Mais non, en fait, ce qui me surprend, effectivement, c'est que. Alors, moi, je parle en béotienne complet. Donc, quand on me dit il a une bécane qui monte à 315, j'ai l'impression que c'est fantastique. Mais surtout, j'arrive pas à comprendre, effectivement, que le fossé se soit autant marqué en quelque part un été ou en 6 mois, puisque l'an passé, malgré tout, Quartararo arrive à gagner avec la même machine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait évoluer cette machine, alors que les autres ont évolué.
Les autres l'ont fait, Paul.
Oui, mais Maryse, l'année dernière, il l'avait déjà évoqué, et bien avant la fin de la saison. C'est d'ailleurs pour ça que.
Donc, Fabio, il ne râle pas plus, c'est pas un caprice de star qui dit aujourd'hui je peux plus y arriver si j'ai pas
non parce que la saison, non mais on va pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. La saison vient de commencer, il y a quand même 21 courses au calendrier cette saison, ce sera d'ailleurs la plus longue saison en moto GP. Donc Fabio Quartararo va s'arracher certainement pour aller glaner des résultats, mais aujourd'hui il ne peut pas viser autre chose qu'un top 10 alors qu'il est le champion du monde sortant, et c'est bien pour ça qu'il n'a pas re-signé avec Yamaha. Son contrat avec l'écurie officielle se terminera à la fin de cette saison.
Grosse pression, si je comprends bien.
Et et grosse pression évidemment. On l'avait vécu hein, dans les années 90 à 2000 en Formule 1, lorsque les meilleurs pilotes comme Alain Prost, comme Ayrton Senna mettaient la pression sur leurs écuries lorsqu'il y avait des changements de moteur et que les Formule 1 ne marchaient plus aussi bien. Ils mettaient la pression. On avait vu d'ailleurs Ayrton Senna quitter McLaren pour aller chez Williams. On avait vu Alain Prost quitter McLaren pour aller chez Ferrari, avant de revenir chez Williams. C'est un petit peu le même cas de figure aujourd'hui. Fabio Quartararo est le numéro 1 officiel chez Yamaha, mais il pourrait peut-être à la fin de la saison quitter cette écurie pour pourquoi pas aller jouer le titre chez Ducati. En tout cas, si les ingénieurs de chez Yamaha ne lui permettaient pas de progresser et de gagner de nouveau dans ce championnat
pour l'équipe Yamaha, un énorme challenge. Parce que effectivement, ça, en plus, ça a des implications, j'imagine, sur leur vente, même en dehors du championnat. Enfin,
si tu dois changer de scooter, tu prendras plutôt du coup un
Ducati. Ça va être un peu cher, je pense.
Ça va être un petit peu cher et peut-être un petit peu compliqué à trouver.
Je suis même pas persuadé qu'ils font des scooters.
Ils font des 50 à boîte, comme on dit. Je voulais 50.
Non, moi, je suis très très contente de ma monture. Tout va bien.
Paul, quelles conséquences?
Tu sais ce qu'on dit, hein, c'est celle qui va bien à tes fesses. Donc moi, elle me va bien.
Elle te va bien. Voilà, bon, parfait. Quelles conséquences pour la suite de la saison, cette Yamaha qui va pas tant que ça aux fesses de Fabio Quartararo? Est-ce qu'on est sur un retard qui peut se rattraper et pourquoi pas dès le prochain Grand Prix dans 15 jours en Indonésie? Ou alors, vu l'écart, Quartararo est condamné à se battre avec un veau, quoi?
Pour l'instant, l'écart est là. Hein. On évoquait le déficit de puissance, le manque de grip de Sayama. Ce qui veut dire que sur des circuits un petit peu techniques, Fabio Quartararo aura peut-être, grâce à sa dextérité, eh bien l'occasion de venir, pourquoi pas, jouer un top 5. Mais pour gagner et jouer la gagne sur l'ensemble d'une saison, ça semble aujourd'hui compliqué, même si, je le rappelais il y a quelques instants, il y aura encore 20 courses au calendrier. Et notamment, Thibaut, tu l'évoquais, le prochain Grand Prix, ce sera en Indonésie le 20 mars sur le tourniquet de Mandalika. C'est un nouveau circuit que les pilotes vont découvrir. Donc bien peut-être un petit peu de chance car l'ensemble du plateau MotoGP ne connaît pas ce circuit et il pourra peut-être faire une différence. Mais en tout cas à l'heure actuelle les soucis sont grands pour l'écurie Yamaha et pour les ingénieurs qui vont peut-être travailler encore une fois sur le package aérodynamique pour redonner un petit peu de puissance, un petit peu d'agilité à cette moto qui en manque grandement. Faisons confiance quand même à Fabio Quartararo qui est devenu le premier champion du monde français en catégorie N pour tenter, sans mauvais jeu de mots, le diable, pour aller essayer de glaner de gros points et de se relancer dans ce championnat. Car on le rappelle, Fabio a terminé aujourd'hui 9e. Il s'est même fait déposer dans la dernière ligne droite du dernier tour par un autre Français, Johan Zarco, qui, grâce à la puissance de sa Ducati du team Pramac, lui a volé quelques points supplémentaires pour terminer 8e. C'est donc un scénario qui fait mal aux pilotes français, mais encore une fois, la saison sera longue et peut-être des rebondissements et peut-être des améliorations dans le package de cette Yamaha championne du monde en titre.
Un message de Florian sur le hashtag RMC Live qui dit: l'année dernière, Yamaha avec Quartararo, c'était l'arbre qui cachait la forêt. La preuve avec Rossi qui a vécu sa dernière saison comme une galère. Effectivement, Rossi, il était sur une Yamaha qui n'était pas d'usine d'ailleurs.
Valentino Rossi avait 43 ans, était évidemment en fin de carrière. Donc,
on ne peut pas limiter le succès des champions.
Il y a deux ans, lorsque Quartararo était sur justement la Yamaha non officielle du team Petronas, il avait rivalisé sur plusieurs courses avec Marc Marquez qui était une fois devenu champion du monde.
Et puis l'année dernière, sur la même moto que son coéquipier Vinales, il lui avait mis aussi une...
Évidemment. Donc la saison, encore une fois, rappelons-le pour nos auditeurs, sera très longue. Et on espère que Fabio arrivera à tirer son épingle du jeu. Mais ça semble aujourd'hui un petit peu compliqué, Thibaut et Maris.
On suivra ça sur RMC cette saison de MotoGP avec notre champion du monde, Fabio Quartararo. Merci Paul Lafitte, passe une bonne soirée. Et on se retrouve dans 15 jours pour la moto et le prochain Grand Prix d'Indonésie. 19h40, on est en direct jusqu'à 20h avec Maris et VanGP, avec Tessa Worley qui sera notre invitée dans 5-7 minutes. Elle a remporté aujourd'hui le slalom géant de Lanz Ride, mais tout de suite direction Pékin, des nouvelles de nos athlètes paralympiques.
RMC Sport
reportage.
Et c'est un drôle de week-end pour Marie Bochet. Valentin Jamin d'être envoyé spécial en Chine pour ces Jeux. Valentin, la skieuse qui a déjà 8 titres paralympiques est passée par toutes les émotions, larmes de tristesse hier, de joie aujourd'hui.
Oui, les débuts aux Jeux de Marie Bochet auront duré moins de 10 secondes. Hier, lors de la descente, la tricolore perd son ski gauche dès la deuxième porte. Après la course, elle craque.
Beaucoup, beaucoup de frustration. Et certains diront peut-être que j'avais la pression, mais en fait, absolument pas. J'étais vraiment bien au départ. Je vais être dans un état vraiment chouette. Enfin, j'avais l'impression que plus j'allais vers le départ et plus j'étais sereine, je savais ce que j'avais à faire. Donc, juste énormément de frustration de ne pas avoir fait plus que deux portes.
Ces Jeux paralympiques sont normalement les derniers pour la Française, née avec une malformation de l'avant-bras gauche. Après les Jeux de Pyeongchang en 2018, elle comptait 8 titres paralympiques et elle se posait des questions. Elle avait perdu le plaisir. Elle avait songé à mettre un terme à sa carrière concrètement avant de se remobiliser. Marie Bochet a appris à mieux se connaître, dit-elle, et elle était arrivée libérée, d'où sa grande tristesse.
Je pense que c'est ça qui est encore plus frustrant, c'est que j'étais vraiment dans un bel état, dans cet état d'esprit que je recherchais. J'avais envie d'être au départ des Jeux avec... Il y avait du palpitant, ça tapait fort dans la poitrine, mais avec de l'envie et juste l'envie de se faire plaisir.
Mais la skieuse aux 22 titres de championne du monde s'est vite ressaisie, gonflée à bloc pour le Super G la nuit dernière et médaillée d'argent. Au final, sa 9e breloque paralympique en carrière. Elles étaient toutes en or jusqu'ici, mais Marie Bochet savourait volontiers cette 2e place.
Elle a un petit goût d'or, celle-là. Là, je prends n'importe quelle médaille, je la prends et je la savoure. J'ai bien évacué. J'ai eu le support d'une équipe assez solide hier et qui m'a beaucoup soutenue. Et puis, je regarde un petit peu dans sa globalité ce résultat et je suis plutôt très contente.
De quoi nourrir de très beaux espoirs pour le super combiné à partir de 2h30 du matin dès la nuit prochaine.
Valentin Jamin à Pékin pour RMC. Maryse, sacrée réaction quand on entend son état de nerf hier. Fallait être solide pour faire la perf et la médaille qu'elle fait aujourd'hui.
Ouais, en même temps, quand on regarde son palmarès, il y a même plus de place pour. On peut pas le faire tenir sur une page. Donc on s'imagine qu'elle a du répondant et surtout de l'expérience. Mais c'est peut-être justement dans ses larmes qu'il faut chercher sa motivation. C'est dans le fait que malgré ses 8 titres de championne olympique, malgré ses X titres de championne du monde, elle garde la même rage, la même envie, et que ces larmes de rage, c'est vraiment de la frustration. C'est-à-dire que si elle a continué sa carrière après 2018 où elle avait fait un quadruple titre olympique, c'est justement parce qu'elle a cette envie-là, elle a cette rage-là.
D'ailleurs, c'est sa première médaille d'argent, elle n'a que des médailles d'or, et on l'entend, elle était très contente, les Jeux paralympiques de Pékin, à vivre sur RMC. 19h43, un tour de nos directs, le basket, le choc de Betclic Elite, la première division du championnat de France, Nicolas Bayou, Boulogne-Levallois, Asvel.
Oui, le combat des chefs qui s'équilibre, puisqu'il y avait tout à l'heure, dans cette fin de première mi-temps, 16 points d'avance pour Boulogne-Levallois face à l'Asvel, et l'Asvel revient à 5 points, l'Asvel qui souffre quand même dans cette première mi-temps face à la meilleure attaque du championnat, l'équipe de Vincent Collet, qui a fait mal à l'équipe de TJ Parker. Mais Villeurbanne revient tant bien que mal dans cette fin de première mi-temps. Il reste 1 minute 29 dans ce deuxième quart-temps, 46 à 41, et un petit duel intéressant entre Will Cummings, 16 points, et David Lighty, 10 points, les deux Américains qui font le show dans cette première mi-temps, dans cette belle ambiance et belle première mi-temps entre Boulogne-Levallois et l'Asvel. 46-41, 1 minute 30 à jouer.
À tout à l'heure, Nico. Et comme la vie est bien faite parfois, Maryse, un direct qui s'ouvre également ce soir de l'athlétisme, le meeting de Paris en direct sur RMC avec Anthony Reich, en direct de l'Accor Arena. Salut Anthony.
Salut Thibaut, bonsoir Maryse, bonsoir à tous.
Et oui, parce que dans 15 jours, les mondiaux en salle de Belgrade, oui, qui arrivent. Ce soir, c'est donc une petite répétition, on va pas dire répétition générale, petite répète.
Oui, une dernière Paris. Occasion de faire les minima pour certains.
Voilà, aussi. Et une belle perf à nous signaler, Anthony, pour un Français, oui, sur 60 mètres.
Exactement, une première petite sensation, une note positive dans ce début de meeting, c'est sur le 60 mètres messieurs, avec, vous savez, ce junior, Jeff Hirius, qui a égalé il y a peu le record de la catégorie sur 60 mètres de Christophe Lemaître. Eh bien, il a gagné sa série en patron en 6,72. Il défiera l'expérimenté américain Michael Rogers en finale. Et c'est plutôt pas mal aussi sur le triple saut masculin, puisque c'est Jean-Marc Ponviane qui a pris la tête du concours avec un saut, une marque à 17,08 mètres. Et puis, on attend évidemment le 60 mètres masculin avec Pascal Martineau-Lagarde et William Béliossian, le récent champion de France qui était dans le RMC Sport Show, il me semble, il y a pas si longtemps. Et puis évidemment, l'attraction de ce meeting en l'absence de Kevin Mayer qui est forfait, c'est du côté du saut à la perche avec l'Américain Nielsen qui a franchi 6,02 mètres du côté de Tourcoing. Ça sera plus tard dans la soirée et la finale du 60 mètres est masculin vers 21h.
Je rebondis sur Jeff Hirius dont tu nous parles, Anthony. Ouais. Maryse, Qui est cette pépite annoncée comme telle? Est-ce que
calmons-nous, c'est juste un junior. Justement, voilà. C'est juste un junior qui est en train de faire ses classes.
Qu'il faut calmer le journaliste sportif qui s'enflamme.
Bien sûr, il faut calmer le journaliste sportif parce que 6,72, enfin son record c'est 6,64. C'est pas un record qui permet de jouer dans la cour des grands. Par contre, c'est un grand record pour un junior. Mmh. Oui, clairement, puisque il a battu le record de France d'un certain Christophe Lemaître qui courait donc moins vite que lui au même âge. Donc effectivement, quand on voit la carrière de Christophe Lemaître qui est médaillé dans tous les grands championnats Europe, monde et Jeux Olympiques, on peut se dire qu'on tient une pépite. Mais on va quand même se calmer parce que le 60 mètres en salle, c'est un peu une répétition du 100 mètres. Donc il faudra voir Jeff Herius à l'extérieur, même si on se doute que ça va faire des perfs puisqu'il en faisait déjà l'année dernière. Par contre, ce qui est à noter, c'est que à cet âge-là, on n'a pas de complexe. Les grands, on s'en fiche complètement. Il n'y a pas de respect, on va dire. Donc effectivement, au contact des meilleurs, il peut un peu progresser. Ça va être intéressant de le voir en finale contre celui qui a quand même 20 ans de plus que lui, qui est l'inamovible Mike Rogers.
Antoine, on entend du bruit là derrière toi, de la musique, c'est belle ambiance, il y a du monde à l'Accor Arena.
Ouais, Bercy, belle ambiance, Bercy n'est pas plein, mais il y a une très belle ambiance, le public est vraiment très proche de la piste qui a été mise en place pour l'occasion, et évidemment ça s'enchaîne énormément, donc beaucoup de rythme, beaucoup de musique, c'est une très belle ambiance, un beau meeting, un beau début de meeting ce soir à Paris.
Merci Anthony, à plus tard pour la suite de ce meeting de Paris à 15 jours des Mondiaux de Belgrade. 19h47, on est en direct avec Maryse jusqu'à 20h pour le RMC Sport Show. À suivre, notre invitée, elle a remporté aujourd'hui le slalom géant de Lanzerheide au lendemain d'une autre victoire, d'une autre française en ski alpin. C'est un week-end historique. Tessa Worley, notre invitée, dans 2 minutes. À tout de suite.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
19h50, dans 10 minutes, l'after arrive autour de Gilbert Bribois et de cette affiche de la 27e journée de Ligue 1 à 20h45 à vivre sur RMC. Marseille-Monaco. Week-end exceptionnel pour le ski féminin français. Cette phrase, là, Maryse, la phrase que je viens de prononcer, personne ne l'avait dite depuis 13 ans. Pour la première fois depuis 2009, les Françaises ont remporté deux courses le même week-end.
82 centièmes pour Tessa Worley. C'est la partie la moins tournante. Elle est à l'aise également, Tessa Worley. Là, le virage le plus serré. Cet appui pied droit qui est très compliqué. Mais elle passe au plus près de la porte. Tessa Worley, c'est bien fait. Elle est encore en avant. 68 centièmes. Elle sort une manche de géant, Tessa Worley, pour aller chercher sa 16e victoire en Coupe du Monde. Elle est dans la partie finale. Thibaut, elle sera au-dessus des 2 minutes. Est-ce qu'elle sera devant Federica Brignone? Ça enchaîne bien. N'a pas fait la faute. La même faute qu'elle a fait en première manche sur l'avant-avant-dernière porte. Tessa Worley sous la banderole d'arrivée. C'est devant de 29 centièmes. 2 minutes. 02. Est-ce que ça va être le week-end des Françaises après Miradoli? Est-ce que ça va être le jour de Worley? Elle est dans la dernière partie. Sarah Hector, les dernières boucles, les derniers virages. Elle laisse la main dans la porte. Ça sera derrière. Elle est derrière. Victoire de Tessa Worley. Victoire de Tessa Worley. 16e victoire en Coupe du Monde. Elle se tape sur le bonnet. Elle prend dans ses bras l'Italienne Federica Brignone. Le bisou. Tessa Worley qui s'impose.
L'invité du RMC Sport Show.
Et c'était en direct sur RMC, bien sûr, après Roman Miradoli hier en Super G. C'est donc Tessa Worley qui s'est imposée aujourd'hui sur le slalom géant de Lanzerheide. Et elle est l'invitée du RMC Sport Show ce soir. Bonsoir Tessa.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être sur RMC ce soir. Félicitations.
Oh.
On va revenir
avec plaisir, merci.
Sur ta performance, mais déjà sur ce week-end incroyable. Ça doit faire du bien quand même d'entendre les louanges du ski féminin. La comparaison avec les hommes n'a pas toujours été facile quand même ces dernières années, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est vrai que on est des équipes en reconstruction depuis quelques années et c'est vrai que ça n'a pas forcément été tout le temps simple. Et aujourd'hui, bah, ça fait énormément de bien de voir que les résultats concrétisent et puis c'est un beau week-end comme ça. C'est génial parce que ça permet aussi de partager ce bonheur avec tout le staff qui bosse depuis des années pour que ça fonctionne et c'est génial de vivre des moments comme ça pour toute l'équipe.
Alors d'ailleurs, le dernier moment comme ça, donc c'était en 2009, c'était déjà avec toi, Tessa. Sandrine Aubert avait gagné le slalom. Oui. Le temps passe, hein, c'est ce que tu te dis aussi quand tu entends ça.
Oui, bah c'est sûr, le temps passe, mais justement, enfin, je suis ravie de pouvoir encore être là au départ, de faire plaisir, de jouer la gagne sur les courses. Et honnêtement, c'est ça mon plus grand plaisir aujourd'hui. C'est vraiment de pouvoir vivre encore ces émotions Et puis, bah, comme je disais, de partager avec toute l'équipe.
Eh oui, t'as gagné sur 3 décennies, déjà, c'est pas mal, tu vois. Enfin, bon, 2009, les années 2010, les années 2020. 16e victoire ouais, de ta carrière aujourd'hui. La 2e cette saison. Sur la course du jour, là, Lanzarote, t'étais placé après la première manche, 3e temps.
Ouais.
Au moment de tes lancers pour la 2e, tu pensais qu'à la victoire ou tu étais sur le podium qui était déjà pas mal?
Honnêtement, je pensais ni à l'un ni à l'autre. En fait, j'étais vraiment focalisée et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut fonctionner. C'est vraiment focalisée sur le ski qu'on a à faire, la manche qu'on a à faire. Je savais qu'il fallait partir le couteau entre les dents parce qu'il y avait un mur important sur la mise en action à l'Enderide. Où il faut être assez solide techniquement et derrière vraiment arriver à lâcher son ski, à pousser les courbes. Donc j'étais vraiment focalisée sur ces points techniques importants et pas vraiment sur le résultat en lui-même. Maintenant, je savais que tout était possible, bien sûr, dans ma tête, et je savais aussi qu'il fallait rien lâcher parce que c'était vraiment je pouvais jouer vraiment quelque chose de super. Donc voilà, c'est simplement ça. Finalement, je ne pense pas vraiment à une place en particulier, mais juste à me dire va la chercher, quoi.
Bon, t'as été la chercher, du coup, et tu te replaces ouais. grâce à cette victoire pour le globe de géant. 55 points de retard maintenant sur Sarah Hector, qui a fini 3e aujourd'hui. Il reste 2 courses. Tu vas aller le chercher, ce globe, parce que ça peut être pas mal. Il y a Auré la semaine prochaine, et le final à Méribel dans 15 jours. Ça peut faire un magnifique final, ouais. C'était ça.
Ouais, ouais, tout à fait. Ben, la Suédoise va faire sa course à la maison vendredi, et moi, la mienne. Dimanche prochain, enfin dimanche 20 mars. Donc, ça peut être vraiment un super beau combat. J'ai déjà vécu dans ma carrière ce genre de situation. Parfois, ça m'a été une fois, ça m'a été favorable et parfois un peu moins. Mais quoi qu'il en soit, d'en être là à ce moment-là de la saison, ça veut dire que déjà la saison a été réussie. Je suis vraiment très très heureuse. Et la meilleure façon d'arriver à Méribel avec le sourire et puis de terminer ma saison, c'est vraiment de continuer à faire les courses avec beaucoup beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, enfin continuer à prendre la bonne dose de risque et puis lui poser quelques petits soucis pour le globe. C'est vrai que elle est très dominatrice cette saison, mais on constate qu'on peut aller la chercher sur des courses, donc c'est super encourageant.
Tessa Worley, victorieuse aujourd'hui du slalom géant de Lanzarote et l'invité du RMC Sport Show ce soir. Tu parlais de cette saison réussie, tu disais à l'instant. Quand on voit la forme dans laquelle tu es aujourd'hui, on repense forcément à ces JO le mois dernier déjà.
Ouais. Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas quelques petits regrets quand même de se dire, je rappelle que tu es sorti en géant, que tu as fini assez loin en super G. Est-ce qu'il y a quelques regrets où la page est tournée et définitivement tournée?
Je pense que j'ai réussi à tourner la page pour avancer, pour justement continuer pas se morfondre, on va dire. Maintenant, c'est vrai que c'était très décevant parce que, en effet, j'attendais énormément de mes derniers jeux. Mais je trouve que ça met aussi vachement en lumière ce que la course d'un jour veut dire. C'est vraiment, il faut arriver à s'adapter aux conditions, à des pistes, à plein de choses. Et c'est là toute la difficulté du sport. Et c'est là que une Sarah Hector qui fait une saison incroyable, elle a réussi au jeu à être présente. Donc, pour moi, ça n'a pas marché. J'étais très déçue. Mais c'est comme ça. C'est le sport, c'est le ski. J'ai pas de regrets sur ces Jeux Olympiques. J'ai vraiment essayé de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai essayé de faire la meilleure course possible. Honnêtement, pas de regrets. Donc, je pense que c'est pour ça que j'arrive aussi à tourner la page. Maintenant, je regarde sur la fin de saison et j'ai envie de faire une belle fin de saison.
Tu l'as dit, ces jeux, c'était les derniers. C'est ce que tu as annoncé en tout cas en Chine. T'as 32 ans. Tu te vois aller jusqu'où? Ce sera quoi le dernier objectif? Est-ce que tu as une année en tête, un événement?
Honnêtement, c'est très difficile pour moi de savoir aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'aller au bout de au bout de ma saison déjà, d'y réfléchir à tête reposée. Mais en tout cas, c'est pas une question que je me pose en plein milieu de saison. Donc, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Je me fais vraiment très très plaisir en course. à l'entraînement. Physiquement, ça va plutôt pas mal. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et puis, ben, on verra jusqu'où ça me mène. Mais ouais, je peux pas apporter de réponse à ça encore.
Bon, et une réponse peut-être à plus court terme. C'est quoi le programme des prochains jours, de la soirée peut-être? Est-ce que quand il reste ces deux courses, on a le temps de fêter comme il faut ce soir? Ou là, on se reconcentre tout de suite pour la suite? Non, tu vas fêter un petit peu quand même, Tessa.
Ouais, bah là, on a de la chance parce qu'on est en transit pour la Suède. Donc, alors, on est déjà sur la route, mais on va pouvoir se poser quand même ce soir et puis bah, savourer ce beau week-end parce que pour toute l'équipe, ça a été vraiment, vraiment, vraiment des beaux résultats encourageants. Alors après, bah, forcément, il y a des déçus, mais je pense qu'on arrive tous à se nourrir les uns des autres de ces bons résultats, de cette de cette énergie et créer une émulation. Donc on va profiter un petit peu ce soir. Demain, on est en repos et on vole sur la Suède mardi.
Eh ben, profite bien. Bravo encore, Tessa. Merci, ben, Tessa Worley, d'avoir été ce soir sur RMC. Bonne fin de saison. On croise les doigts pour les deux dernières courses.
Merci, bonne soirée.
À très vite. Au revoir. Championne Tessa Worley, 19h59. Merci de nous avoir suivis. Marie, se passe une bonne soirée, une bonne semaine. À dimanche prochain. Vous entendez la petite musique. L'after arrive sur RMC autour de Gilbert Bribois et un Roland Courbis qui est là ce soir. Marseille-Monaco, c'est l'affiche de cette 27e journée. Les compos dans un instant, l'analyse. Bonne soirée.
RMC, l'after foot.
Le match.